Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom de la Société Gatineau Monde, nous vous souhaitons la bienvenue à cette première de trois conférences qui auront lieu donc pendant la saison hiver 2015. Tel qu'indiqué dans le dépliant, la deuxième conférence aura lieu le 18 février. Notre invité sera Patrick Duguay, un homme fortement engagé depuis une quinzaine d'années dans le développement social et économique des régions Laurentides et Outaouais. Et finalement, le 5 mai, nous recevrons Simon Tremblay-Pépin, un jeune homme tout aussi brillant que les deux qui l'auront précédé à cette tribune. À cette occasion, le 5 mai, nous procéderons au tirage d'une tablette électronique. Donc, chacun d'entre vous est invité à participer à ce tirage. Chaque personne que vous amenez ici, d'ici, c'est-à-dire le 5 mai, pour faire partie de la Société Gatineau Monde, vous donne une chance de gagner. Alors, vous pourrez parler au personnel à l'arrière pendant la pause ou après la conférence. Toujours à propos de tirage, nous nous prions de remplir les formulaires d'appréciation qui vous ont été remis à l'entrée. Nos bénévoles les recueilleront à mon signal un peu plus tard et nous ferons tirer un ou deux livres de notre conférencier. En qualité de modérateur, donc, je me permets de transmettre quelques messages de remerciement, entre autres à la ville de Gatineau, qui met à notre disposition cette magnifique salle Jean-Després. Nos remerciements s'adressent aussi à tous les autres partenaires et commanditaires qui ont contribué à la réalisation de la conférence de ce soir, notamment Mme Françoise Boivin et Nicole Turmel, respectivement députés de Gatineau et de Hall-Aimer à la Chambre des communes, l'Association de circonscription du Bloc québécois de Gatineau, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, qui ont des petits problèmes ces jours-ci, comme vous savez, l'imprimerie Multiprinting et la coopérative de café La Tierra Coop qui nous fournit donc les boissons que vous avez à l'arrière. Merci également aux commerçants suivants qui nous offrent les points de vente pour nos billets à l'échelle du monde, la Café La Tierra, Café Villageois des Potrons Minets, la Bouquinerie Dédé, la Librairie du Soleil, la Librairie Louis Fréchette, la Librairie Michabou et Sol Épicerie Santé. Comme d'habitude, je vois qu'il y a beaucoup d'habitués ici. La soirée se déroulera en trois temps. D'abord, la conférence proprement dite, qui sera suivie qui durera approximativement 45 minutes, qui sera suivie d'une période de questions et réponses. Alors, vous pouvez préparer vos questions au cours de la conférence. Et finalement, une séance de dédicace à laquelle se prêtera volontiers notre conférencier, soit à l'arrière, soit ici, devant. Monsieur Boccoté est diplômé en philosophie de l'Université de Montréal et titulaire d'une maîtrise en sociologie et d'un doctorat en sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent principalement sur le nationalisme québécois, le conservatisme occidental et la démocratie occidentale depuis les années 60. Ses interventions publiques ne se limitent pas à ces sujets cependant. À preuve, les livres qu'il a publiés, et on en a apporté plusieurs exemplaires ici, et ses chroniques dans le Journal de Montréal, ainsi que ses lettres parues dans la presse et le Devoir, et ses apparitions à la radio et la télévision, notamment à Télé-Québec et à LCN. Après quelques années d'engagement militant, M. Boccoté a décidé d'en sortir pour regagner sa liberté de parole et intervenir dans la vie publique. Il a alors compris le mot de Paul Valéry, la politique est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde. Après toutes ces années, notre conférencier a fait sien ce mot de Louis Powell, le rôle des intellectuels, comme lui, n'est pas d'inventer les idées neuves, mais de redire des vérités que nous avons la faiblesse d'oublier. Alors, entendons notre conférencier nous poser la question, l'engagement politique a-t-il encore un sens? Et nous aider à trouver les réponses. S'il vous plaît, applaudissez M. Mathieu Boccoté.
Alors, bonsoir à tous. Et d'abord et avant tout, merci à votre association pour cette généreuse invitation à vous adresser la parole. Sur un thème, d'ailleurs, je le précise, on m'a dit quel sujet vous intéresserait particulièrement. Donc, j'avais une liberté de thème, véritablement. Et la question de l'engagement politique, de la signification de l'engagement politique, pour peu qu'on la déprenne des querelles qui meublent l'actualité, me semblait la plus la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est la question première qui permet de revenir sur le sens de ce que peut vouloir encore dire aujourd'hui l'idéal démocratique, de ce que peut vouloir dire la démocratie. Poser la question de l'engagement politique, poser la question du sens de l'engagement politique, ça veut dire tout simplement réfléchir à ce qui fait en sorte qu'au-delà de nos vies individuelles, de nos vies privées, nous avons peut-être encore, vous voyez mon optimisme, quelque chose en commun, que nous avons peut-être encore quelque chose comme une cité partagée, que nous avons peut-être encore, au-delà de tout ce qui peut nous diviser, des raisons communes, pour emprunter la formule du sociologue québécois Fernand Dumont. Alors, pourquoi la question « Quel est le sens de l'engagement politique aujourd'hui ?» C'est une autre manière de poser, probablement, avec un peu de vernis, une question plus difficile, plus dure. Comment expliquer aujourd'hui notre avachissement civique ? Comment expliquer la dépression démocratique contemporaine, qui n'est pas exclusive à la société québécoise, bien qu'elle se vive ici de manière particulière, évidemment. La question à laquelle, que je me suis posée et autour de laquelle j'ai construit cette conférence, finalement, c'est comment se fait-il que nous ayons généralement dans nos sociétés le sentiment d'avoir perdu quelque chose? Non pas le sentiment d'une décadence inéluctable ou d'un déclin absolument irréversible. Il ne s'agit pas de poser la chose avec quelque ton catastrophiste que ce soit, et il ne s'agit pas non plus de se réfugier dans je ne sais quelle nostalgie qui consisterait à dire « c'était mieux avant ». Pour citer un historien français que j'aime beaucoup, ça a toujours mal été. Donc, ne nous inquiétons pas, les choses, le monde humain a ce mauvais goût de ne jamais être conforme aux idéaux à partir desquels on le juge. Mais comment se fait-il néanmoins que dans nos sociétés, qui sont parmi les plus évoluées de l'histoire humaine, comment se fait-il que nous ayons aujourd'hui le sentiment d'une perte, le sentiment d'une absence, le sentiment d'un grand vide lorsque vient le temps d'évoquer la chose publique, lorsque vient le temps d'évoquer nos institutions, lorsque vient le temps d'évoquer l'engagement politique? Il y a bien évidemment les explications faciles, celles qui nous sont fournies par le système médiatique contemporain. Par exemple, on va expliquer le tout par le cynisme, le cynisme s'expliquant par la corruption. Bon, c'est très vrai, ce sont des explications qu'il ne faut pas dédaigner, mais n'oublions pas une chose. Le cynisme est souvent une réaction naturelle des citoyens par rapport à ceux qui prétendent les gouverner simplement pour leur bien. J'ai une admiration infinie pour les grands hommes politiques, mais je ne me fais pas d'illusion sur le fait qu'une part de leur volonté de servir le bien commun s'accompagne aussi d'un désir de gloire, de rester dans les pages de l'histoire. Je ne leur en veux pas d'ailleurs, il m'arrive d'être traversé par de semblables pensées inavouables. Mais donc, il y a un cynisme naturel, inévitable, qui n'est pas toujours mauvais. Le cynisme devient terrible quand il passe du réflexe de prudence, c'est-à-dire cause toujours. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Belle parole, certes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il devient systématique, lorsqu'il mine fondamentalement les institutions, lorsqu'il fonctionne à la manière d'un dissolvant à institution, lorsqu'il nous dit « rien de tout cela n'est valable et tout cela n'est qu'une comédie », on nous dira la corruption. Évidemment, c'est un problème majeur et Dieu sait que le Québec en a donné l'exemple ces dernières années. Mais soyons honnêtes. Je dirais que la corruption, d'une manière ou de l'autre, est consubstantielle à l'exercice du pouvoir. Il n'existe pas sur cette terre, à moins que je ne me trompe, des cités pures. Il n'y a pas de cité à l'abri de cette part noire du cœur de l'homme qui consiste à confondre quelquefois le bien commun et le bien privé. Il n'y a pas de société qui soit à l'abri de cette tentation de détourner le bien public au service d'intérêts privés. Aucune institution sur Terre n'est à l'abri de sa colonisation par l'intérêt privé, même quelquefois par l'intérêt privé le moins recommandable qui soit. Mais comment se fait-il qu'on regarde avec autant, qu'on ne voit aujourd'hui que cette corruption lorsqu'on regarde la chose publique bien souvent? Se pourrait-il, si on prend au sérieux l'idée qu'elle a toujours été présente d'une manière ou de l'autre, de manière plus ou moins systématique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas la combattre, c'est simplement un combat à toujours reprendre. C'est une guerre qu'on ne gagnera jamais, mais qu'on ne doit jamais cesser de livrer. On peut quelquefois avoir des victoires circonstancielles, mais ne nous faisons pas d'illusions, il faut toujours reprendre la bataille quelques années plus tard. Mais se pourrait-il qu'on ne voit aujourd'hui dans la politique donc que querelles d'ambition, petites ambitions vénales quelquefois, corruption, désir d'appropriation des institutions publiques au nom des intérêts privés? Se pourrait-il que cela s'explique aussi par le fait qu'il y a une absence dramatique de grands idéaux, une absence dramatique de grands projets, une absence dramatique de vision du monde qui viendrait transcender, je dirais, la part sombre et noire de la politique? Parce qu'il y a une part inévitablement sombre de la politique. Hein. J'ai une définition de la politique, quelquefois, c'est le mal nécessaire au service du bien commun. Ce n'est pas du cynisme. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois là-dessus des contorsions, des mauvais coups, de la stratégie, mais en dernière instance, il devrait y avoir l'idéal du bien commun. Mais si nous n'avons que le mal nécessaire et nous n'avons pas le bien commun, alors ça devient un peu moins enthousiasmant. Alors, se pourrait-il finalement que ce qui explique notre exaspération, notre lassitude par rapport à la politique, c'est que nous ayons déserté d'une manière ou de l'autre la chose publique, que nous ayons renoncé à y investir, non pas simplement des réflexes gestionnaires, nous devons gérer la société de la meilleure manière possible comme une entreprise privée, mettez les traits d'union à chacun de ces mots-là, et que nous ayons renoncé à l'investir d'un certain sens existentiel, comme si nous avons oublié qu'au cœur de la cité, au cœur de la vie politique, il y a aussi une part du cœur de l'homme, une part de l'âme humaine qui se joue dans la cité. Se pourrait-il que nous ayons oublié tout simplement que la politique n'a de sens que si elle est fécondée par des idéaux qui nous grandissent? J'ai tendance à croire que, pardonnez cette mauvaise toux, j'ai tendance à croire que dans la crise que traversent les sociétés occidentales contemporaines, il y a beaucoup de cet abandon de l'idéal. Et on doit, d'une certaine manière, faire l'histoire de cet abandon de l'idéal. On doit faire une histoire de cette perte du rapport au commun. Qu'est-ce que le commun? C'est pas simplement l'addition de nos individualités. C'est ce qui transcende nos individualités et qui nous rassemble autour de quelque chose qu'on peut admirer en commun ou à tout le moins qu'on peut désirer communément, qui nous rassemble à la fois par les racines et par l'idéal. Se pourrait-il que dans la mesure où nous ayons perdu le sens du commun, eh bien, nous ayons perdu le sens de la cité et dès lors, la politique donne à l'air d'un triste spectacle animé par de mauvais cabotins. Si on veut comprendre cette disparition progressive de l'idéal, si on veut retracer les raisons à l'origine de cette perte de la charge existentielle de la vie politique, je crois qu'il faut revenir sur un événement qu'on a commémoré, avec raison par ailleurs, en 2014, c'est la chute du mur de Berlin. Un peu d'histoire n'est jamais trop, vous me pardonnerez cette déformation. La chute du mur de Berlin, 1989, qui représente quoi à l'échelle du dernier siècle? Ça représente, d'une certaine manière, la victoire finale, heureuse, espérée, de la démocratie contre le totalitarisme. Ça représente la victoire de la démocratie contre le communisme. Ça représente la victoire de la démocratie contre les alternatives qui avaient cherché à l'abattre tout au long du 20e siècle. Alternative brune, venant de Berlin dans les années 30, avec la catastrophe humaine exceptionnelle qu'a représenté le nazisme. Catastrophe rouge, ensuite, avec le totalitarisme communiste qui a trouvé son point culminant dans le goulag, dans le système des camps de concentration. Alors, en 1989, il y a quelque chose de fondamentalement heureux qui arrive. C'est la victoire de la démocratie. La démocratie ressort gagnante d'une lutte où on avait à maintes reprises annoncé qu'elle serait défaite. Hein? Est-ce qu'on n'avait pas dit que c'était un régime apathique, un régime lâche, un régime qui n'était pas capable de mobiliser les esprits, un régime qui manquait d'énergie? Eh bien, pourtant, malgré tout, la démocratie libérale, avec ses 1000 défauts et ses 1000 qualités, en 1989, ressort finalement gagnante de la grande querelle qui l'a traversée au 20e siècle. Victoire paradoxale, toutefois. Parce qu'au moment où la démocratie triomphe, elle s'affadit. Au moment où elle triomphe, elle commence sa dénaturation. On pourrait dire que c'est paradoxal, mais c'est comme si la démocratie n'avait pu révéler tout son génie véritable que lorsqu'elle était combattante. C'est-à-dire, parce qu'elle était combattante, elle était capable de révéler sa meilleure part, ses vertus. Alors que triomphante, une fois pour toutes installée à la manière du seul idéal possible dans nos sociétés, ce avec quoi je ne suis pas en désaccord fondamentalement, c'est le meilleur régime. Mais il y a la démocratie triomphante, la démocratie non plus combattante mais apaisée, la démocratie présentée non plus comme un combat, mais plutôt comme le stade terminal de l'humanité, Eh bien, d'une certaine manière, la démocratie s'est avachie, s'est assoupie et s'est dénaturée depuis un quart de siècle. Nous avons été témoins d'un discours qui était celui, vous me pardonnerez la référence académique, de la fin de l'histoire. De la fin de l'histoire, vous connaissez peut-être ce philosophe américain, Francis Fukuyama, qui écrit, fin des années 80, début 90, un livre qui va avoir une influence majeure, à la fois en philosophie politique, mais comme tous les livres qui ont une influence véritable, c'est-à-dire qu'il a sorti du simple registre de l'université. Donc, un livre majeur, « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Et que nous dit Fukuyama dans ce livre qui va véritablement transformer les représentations collectives? Il nous dit « L'histoire humaine vient d'atteindre son stade terminal. Fondamentalement, c'est terminé. La démocratie a gagné, l'économie de marché a gagné. Désormais, il ne faudra plus investir quelque idéaux que ce soit dans la politique. Je caricature sa pensée, bien sûr, mais je crois en dire quand même l'essentiel. » Il ne faudra plus investir quelque idéaux que ce soit dans la vie politique. La démocratie doit devenir simplement aujourd'hui gestionnaire. Gestionnaire du stade terminal de l'humanité, d'une certaine manière. À quoi ressemble cette société idyllique qui nous est alors promise? C'est une société d'individus déliés les uns des autres, des individus carapacés dans leurs droits, des individus se définissant d'abord comme consommateurs, des individus se délivrant peu à peu de leur patrie respective parce qu'ils se regardent et se contemplent dans le miroir ou dans un fantasme qui est celui du citoyen du monde, celui d'individus détachés des différentes traditions culturelles qui les alimentaient, parce que ces traditions sont tout autant de prisons qui les empêchent de faire l'expérience de tous les possibles contenus dans l'humanité. On nous a, autrement dit, je dirais que le citoyen idéal de ce monde post-historique, hein, fin de l'histoire, c'est terminé, c'est une forme de touriste consommateur se promenant avec ses droits de l'homme et ne voulant certainement pas qu'on le dérange de quelque manière que ce soit. Nous mentirions si nous disions qu'il n'y a pas quelque chose de charmant dans cette idée. Passer son existence à vagabonder d'un pays à l'autre à la manière d'un touriste, muséifiant chaque pays qu'il visite pour qu'on le transforme simplement à la manière de « voici le musée Prague, le musée Paris, le musée Québec, le musée Montréal bon, ». Autrement dit, le monde historique avec ses nations, ses cultures, ses histoires, ses langues, tout cela ne devrait plus véritablement nous encombrer. Le citoyen du monde, porteur de droits de l'homme, revendiquant partout ses droits de l'homme, traduisant d'ailleurs systématiquement chaque désir en besoin et chaque besoin en droit et chaque droit en droit de l'homme, se promenant d'un pays à l'autre, vivant dans une forme de présent perpétuel. Un présent perpétuel, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être encombré à la manière d'un passé qui n'est plus vécu comme un héritage, mais un passé qui est vécu comme un fardeau. Un passé qui est vécu à la manière d'une série de liens dont on doit se détacher pour découvrir son vrai moi intérieur. Il faut toujours s'inquiéter de lorsqu'on veut découvrir son seul vrai moi intérieur sans support culturel, il se peut qu'on tombe quelquefois dans l'insignifiance. Fin de la parenthèse. Donc, délivré du passé, délivré aussi inévitablement de quelque futur que ce soit, de quelque avenir que ce soit. Voulant se contenter, je l'ai dit, d'un présent perpétuel, incapable de s'inscrire dans le temps. C'est une idée, c'est un fantasme qui, comme je l'ai dit, ne manque pas de charme, au sens où c'est une promesse hédoniste de vie délivrée du tragique. C'est une vie de loisir. C'est une vie hollywoodienne. Et qui n'a pas eu la tentation, à un moment ou un autre, de céder à cette vie, qui est par ailleurs, ne nous trompons pas, mise en valeur de mille manières par le système publicitaire, le système capitaliste, le système médiatique, qui cherche à nous faire croire qu'une existence qui aurait, par exemple, l'horreur de se passer dans une seule famille et non pas en les multipliant, une existence qui aurait l'horreur de se passer principalement dans un pays sans être un touriste perpétuel, une existence où le passé alimenterait encore une existence. Une existence où le sens de l'État aurait encore un certain sens, eh bien, on a une espèce de système médiatique, de représentation des valeurs qui fait une promotion de ce qu'est cette, de ce nouvel idéal de vie. De ce nouvel idéal de vie, de ce nouvel idéal de l'être humain. Et je pense que cette vision, en l'espace de 25 ans, elle s'est diffusée de manière absolument accélérée et terrifiante à bien des égards dans l'ensemble des sociétés occidentales, à la manière d'une nouvelle évidence qu'il ne nous est plus permis de questionner de quelque manière que ce soit. Il y a même, je dirais, une réécriture de l'histoire qui s'opère et qui consiste à dire que soit vous contemplez cette nouvelle figure de l'être humain affranchi de tout, vous vous inclinez devant et vous dites « Merci, enfin nous avons le stade final, le stade terminal d'une humanité délivrée de chaque problème. » Ou alors, on vous soupçonnera de tentations malfaisantes. Seriez-vous réactionnaire? Seriez-vous retardataire? Seriez-vous exagérément amoureux du passé? À tout le moins, vous êtes un type louche. Il y a une espèce d'idéologie dominante, pour le dire ainsi, qui s'est installée dans l'ensemble de nos sociétés et qui, on l'aura compris, vers là que je me dirige, vide le collectif de toute substance. Qu'est-ce que dans un monde comme celui-là, puisqu'on n'abolit pas l'État pour autant, on se comprend bien, il y a encore un État, il y a encore des institutions, il y a encore une administration publique. Qu'est-ce qu'on va demander aux politiques dans un tel monde? Eh bien, on va lui demander simplement, on va avoir une vision minimaliste du politique, on va lui demander, sachant que dans ce monde, il n'existe plus que des individus sacralisant leur propre vie, s'enfermant dans leur univers privé, c'est-à-dire ils privatisent leur existence au grand complet et ne veulent être en interférence avec la société qu'avec leurs droits. Quel est votre lien avec la société? J'ai des droits. Bon. Sachant qu'on est dans cette logique, quel rôle est dévolu aux politiques? Bien, c'est un rôle minimaliste qui consiste tout simplement à gérer une définition strictement gestionnaire qui consiste à adapter notre société au mouvement par ailleurs inéluctable et fatal, par exemple, de la mondialisation, par exemple, de la révolution des technologies, par exemple, des mouvements migratoires, par exemple, de l'explosion des systèmes sociaux. On nous dit... Le politique est simplement une vocation strictement gestionnaire. Il doit administrer nos sociétés le mieux possible, mais on ne doit surtout pas accepter qu'il s'investisse de quelque idéal particulier, parce que si on décide d'investir des idéaux, donc des projets de société, donc certaines valeurs qui dépassent la simple administration de l'intime dans l'espace public, on sera très rapidement accusé de vouloir imposer des choix de vie aux autres. Autrement dit, dès qu'on pose la question du commun, l'individu contemporain crie à la tyrannie de la majorité. Dès qu'on pose la question des références communes, immédiatement, le droit à la dissidence est brandi comme un droit de l'homme, inévitablement, ce qui peut être vrai à certains moments. Et on dit « Je ne suis pas de cette société, donc elle ne parle pas en mon nom, donc que cette société respecte l'infinie diversité qui la compose et qu'elle ne se définisse que dans le culte de cette diversité des individus, mais qu'elle ne cherche pas à trouver des points de repère communs. Parce que les points de repère communs, il y aura quelque chose, je l'ai dit, comme tyrannie de la majorité ou à tout le moins oppression des marges par le centre. » Perte du collectif, donc le politique comme définition strictement gestionnaire. J'ajouterais qu'à partir de là, l'exercice électoral qui est au cœur de la démocratie a tendance à se vider de son sens. Nous avons de plus en plus l'impression, ce qui ne veut pas dire que c'est vrai en toutes circonstances, parce que quelquefois, on constate que des gouvernements au pouvoir n'agissent pas véritablement de la même manière que celui qui le précédait. Je ne pense à rien en particulier en disant ça. Mais on a l'impression, qui n'est pas toujours fausse, que les équipes gouvernementales qui nous sont proposées sont fondamentalement interchangeables. Nous avons l'impression qu'ils naviguent dans le même univers idéologique, qu'ils naviguent autour des mêmes certitudes, et que finalement, ce qui distingue les partis souvent, c'est moins leur programme ou leur vision, que les circuits professionnels différents ou les réseaux professionnels ou sociologiques différents qu'ils mobilisent dans la société. Un parti sera plus proche des avocats, l'autre parti sera plus proche des professeurs. On n'utilisera pas les mêmes slogans. On va peut-être pas, le cœur ne va peut-être pas battre plus rapidement pour les mêmes slogans. Mais fondamentalement, d'un parti à l'autre, il y a une administration, je dirais, paisible au mieux, laborieuse plus généralement, d'une même décomposition sociale. Mais l'exercice politique, la démocratie elle-même a tendance à être vidée de son sens. Parce qu'à partir du moment, d'ailleurs, vous le noterez, où un parti arrive avec une proposition plus forte, souvent d'ailleurs, le système médiatique dans lequel nous évoluons, et j'y reviendrai tantôt, va avoir tendance à le disqualifier moralement en s'inquiétant de son radicalisme présumé, de sa tentation extrême peut-être, du fait qu'il veut, autrement dit, troubler la quiétude citoyenne. Mais se pourrait-il que ce monde idyllique dans lequel nous sommes supposés vivre et dans lequel la démocratie est ramenée à une définition minimaliste, dans lequel la démocratie est ramenée à si peu de choses qu'on peine à la définir autrement que comme le régime de gestion des intérêts privés, se pourrait-il que derrière le récit enchanté et lyrique du monde merveilleux qui serait le nôtre, se pourrait-il que des problèmes graves, des failles sociales majeures, des lézardes culturelles ou idéologiques majeures se révèlent, qu'elles soient ressenties comme telles par une grande majorité de la population, qui n'a pas nécessairement le vocabulaire ou l'appareillage théorique pour nommer ces problèmes, mais qui a l'intuition que quelque chose se passe, qu'il y a quelque chose que nous saurions, autrement dit, que cette société de l'individu détaché de tout, consommateur, jouisseur, touriste universel, porteur de droits. Mais se pourrait-il que cette société, qu'on nous présente comme le stade terminal de l'humanité, cache en fait des failles sociales que nous ne parvenons plus à nommer? Que nous ne parvenons plus à nommer? Et se pourrait-il que ces failles sociales nombreuses, elles soient connectées entre elles et elles réfèrent justement à cette déliquescence du collectif dont je vous ai d'abord parlé? Se pourrait-il qu'au fond de nous-mêmes, nous sachions que le collectif n'est pas simplement tyrannie du plus fort sur le plus faible, mais aussi et peut-être le cadre nécessaire à l'épanouissement de chacun? Se pourrait-il que nous devinions d'une manière ou de l'autre que le collectif, ce ne soit pas simplement un rapport de pouvoir des uns au service des autres ou contre les autres, mais que le collectif, ce soit ce cadre sans lequel nos existences sont condamnées à l'avachissement d'une manière ou de l'autre. Ce cadre sans lequel une forme de détresse s'installe dans la société. Une détresse que nous ne parvenons pas à nommer, mais une détresse bien réelle. Alors, ce que je chercherai à nommer à partir de maintenant, juste savoir, il me reste à peu près combien de temps? Ah, formidable! C'était mon introduction. Se pourrait-il qu'il y ait une multiplication des failles sociales? Et si oui, est-ce qu'on pourrait en examiner quelques-unes pour voir de quelle manière cet émiettement du collectif provoque en fait une véritable détresse, à tout le moins une forme de dépression collective dont nous sommes tous victimes d'une manière ou de l'autre? Premier élément qui me vient à l'esprit lorsque je parle de ça, je dirais, c'est la logique de l'émiettement du lien social. L'émiettement du lien social, c'est-à-dire que ce que nous avons en commun, je l'ai évoqué tantôt, se réduit à la conscience intime que chacun a de ses droits. En tant que tel, les droits, c'est fondamental, c'est très bien, c'est un des grands acquis de la civilisation occidentale que d'être capable de nommer les droits de chacun pour formaliser les rapports sociaux. Mais que se passe-t-il lorsque chaque individu n'existe plus que dans ses propres droits? Que se passe-t-il s'il se détache du collectif, s'il se vit lui-même comme une île et qu'il n'a plus rien à proposer à la vie en collectivité que le respect de ses propres droits? Que se passe-t-il lorsque, par exemple, des choses aussi élémentaires que le civisme ou les règles de bienséance ou les règles culturelles élémentaires sont considérées comme tout autant d'encombrements qui empêchent mon moi véritable de s'exprimer dans son authenticité? Nous assistons, je crois, au déploiement d'un individualisme si radical qu'il est devenu toxique et morbide. Un individualisme si radical qui fait en sorte que l'individu ne veut plus rien connaître d'autre que lui-même. Il ne veut plus rien connaître d'autre que lui-même, ce qui veut dire qu'à bien des égards, il travaille à son propre déracinement culturel. Pourquoi? Parce que contemplant l'expérience de l'humanité, qui se présente à lui sous le signe de l'éducation ou des traditions, par exemple, pas des traditions au sens de la soupe au pois, là, mais des traditions, c'est-à-dire des repères culturels majeurs qui traversent les générations et qui nous donnent l'expérience, le sentiment de la continuité humaine. Mais que se passe-t-il si l'individu veut s'arracher à tout héritage historique pour creuser en lui-même et découvrir sa propre individualité? Eh bien, il se détache tout simplement de l'expérience humaine commune et trop souvent verse dans l'insignifiance la plus pénible. Pourquoi, par exemple, à l'école, avait-on l'habitude, je voudrais, ou la tradition, dans le bon sens du terme, d'éduquer l'enfant, l'élève, l'adolescent, par exemple, avec les classiques de la littérature, les classiques de la philosophie? Parce que ces classiques donnaient, envoyaient un signal à l'esprit de chacun. Tu nais dans un monde qui te précède et qui te survivra. Ta responsabilité en ce monde ne consiste pas simplement à jouir de ce monde, ce qui est par ailleurs tout à fait correct et respectable, c'est très agréable jouir de la vie. Mais ta responsabilité en ce monde ne consiste pas simplement à jouir de ce monde, mais à te sentir héritier d'un monde qui te précède et qui te survivra. Que se passe-t-il lorsque, par exemple, dans l'école contemporaine, comme on le constate souvent, ce rapport au classique, ce rapport aux œuvres, qui venait dans les faits de deux manières, par l'enseignement de l'histoire et de la littérature, que se passe-t-il lorsqu'on décide d'assécher véritablement cette voie de transmission culturelle? Eh bien, on provoque une situation de désorientation majeure de l'esprit humain, qui, qu'on le veuille ou non, a besoin de sentir qu'il appartient à quelque chose qui le dépasse. C'est le paradoxe de l'individu contemporain. Il ne veut dépendre que de lui-même, mais une part de lui-même crie à l'aide parce qu'il a besoin des autres pour s'inscrire en communauté. un certain idéal de l'autonomie humaine, c'est très bien. Ça permet à chacun de se définir selon ses propres penchants. Une autonomie humaine radicalisée, ça nous empêche quelquefois d'être capable de nouer des liens avec ceux qui nous entourent de manière aussi simple que ça. Et là, je donne l'exemple de l'école. Pourquoi? Parce que l'école devrait être ce premier lieu qui nous éduque justement à cette conscience de la gratitude. Naissant dans un monde qui nous précède et qui nous survivra, nous sommes conséquemment comptables d'un héritage qu'il ne s'agira pas de transmettre intact aux générations qui suivront. Évidemment, la liberté humaine consiste à recevoir l'héritage, le travailler, le répudier, le ressaisir, le décomposer, le recomposer. Mais à tout le moins, il y a cette idée que naissant dans un monde qui nous précède et nous survivra, j'emprunte cette formule au philosophe français Alain Finkielkraut, naissant dans ce monde, eh bien, nous avons une responsabilité envers un au-delà de soi. Nous avons une responsabilité envers un au-delà de l'intime. Nous avons une responsabilité envers un commun qui n'est pas simplement une addition d'individualité, mais un legs, une mémoire, une culture, des œuvres, des références qui permettent d'éduquer le cœur humain, qui permettent d'éduquer l'âme, qui permettent d'éduquer la raison, qui permettent finalement à l'individu de s'inscrire dans quelque chose qui le dépasse et qui l'alimente. Or, ce que je constate aujourd'hui dans cette espèce d'individualisme radical porté par une logique de déracinement, c'est que l'individu croit se délivrer de la tutelle du passé, mais en fait, il se condamne à l'assèchement existentiel. Il se condamne à un assèchement existentiel qui va l'amener paradoxalement ensuite à adopter tous les modes disponibles qui se présentent à lui, parce que ne disposant plus de profondeur historique, il devient ensuite le candidat idéal pour tous les publicitaires qui rêvent de le définir selon le mouvement de la mode du moment, selon la tentation de la consommation du jour, et ainsi de suite. On a oublié qu'une des conditions pour éduquer la liberté de l'esprit et pour l'amener à savoir résister aux nombreuses tentations de manipulation qui s'appellent aujourd'hui bien souvent idéologie, mais aussi publicité, capitalisme de masse, consommation abusive et déréglée, eh bien, un des éléments de l'esprit critique qui permet justement de résister à cette influence manipulatrice quelquefois des différents discours qui pèsent sur nous, c'est justement la culture et l'enracinement, parce que ça nous situe dans une autre dimension que simplement la volonté de satisfaire chacune de ces pulsions au moment où elles se présentent à notre conscience. L'individu contemporain, il faut bien le constater, est un individu dérouté, sans grand repère. Il se croit libre. C'est une figure que j'utilise souvent. On lui a dit « Détache-toi de ta tradition, de ta mémoire, de ton identité. Deviens un individu interchangeable avec tous les autres. Détache-toi de cet héritage culturel qui pouvait être lourd quelquefois, mais qui te protégeait aussi, sur lequel tu pouvais asseoir la construction de ta personnalité. » Eh bien, l'individu contemporain a cru qu'il devenait libre. En fait, il n'est que nu. Il est nu, il est jeté dans le monde, il grelotte. Et on lui dit « Tu es libre » et surtout ne va certainement pas dire le contraire parce qu'on te reprochera d'être réactionnaire et nostalgique. C'est une société, un de mes amis utilise cette formule souvent, qui, vous le noterez soit dit en passant, ne se consomme pas à froid. C'est une société qui a besoin de multiplier d'ailleurs pour calmer les nombreuses angoisses psychologiques, existentielles qui la traversent. C'est une société qui multiplie les systèmes de régulation des émotions parce qu'il y a un constat qui n'est jamais fait publiquement, mais qui est bien réel, celui d'une détresse psychologique, pardonnez le mot, mais une détresse psychologique qui n'est pas ancrée simplement dans les troubles de l'individu, mais qui est aussi le résultat d'un effritement des cadres sociaux les plus fondamentaux. Donc, quand je dis qu'il y a différents modes de régulation aujourd'hui de cette déréliction des âmes, on peut penser simplement au divertissement de masse qui vire bien souvent à l'abrutissement de masse. On peut penser à ce que j'appelle la régulation pharmaceutique des émotions. Hein? Vous noterez qu'aujourd'hui, la plupart des états émotionnels qu'on peut avoir sont traduits dans le langage de la psychiatrie le plus rapidement possible, ce qui n'est pas pour déplaire à ceux qui sont aux marchands de pilules. Il y a une espèce de psychiatrisation de tous les états psychologiques liés à cette espèce de détresse sociale qui est entre autres le fruit d'un effritement des cadres communs. Mais on décide de culpabiliser l'individu en disant « c'est de ta faute, tu as des problèmes psychologiques » et on va, autrement dit, traiter le symptôme avec les différents discours possibles ou les différentes formes de régulation pharmaceutique possibles. Mais jamais on ne se posera la question de savoir qu'est-ce qui est à l'origine, quelquefois, quelle est l'origine culturelle ou sociale ou politique de ce sentiment de déliquescence. Donc, j'en ai assez dit sur cet individualisme mortifère qui se retourne contre l'individu. Non, c'est bien le paradoxe, c'est que l'individu, ne désirant plus être que lui-même, devient finalement un individu désœuvré, aux repères changeants et qui a de la difficulté à s'inscrire dans le monde. Autrement dit, la perte du politique et du collectif ici provoque une certaine forme de détresse. Deuxième élément, qui n'est pas sans lien, quand je parle qu'il y a une logique de désagrégation du collectif, on le voit aussi lorsque se créent des mini-collectifs à la grandeur de la société. Autrement dit, la multiplication des lobbies, des groupes affinitaires, donc des groupes qui se définissent par des affinités particulières, le collectif n'est plus là, donc chacun se replie sur sa petite tribu. Hein? On croyait se libérer du grand collectif en disant « je ne serai plus qu'individu » et pourtant, ayant besoin d'appartenir à quelque chose, parce que le besoin d'appartenance n'est pas un besoin fictif chez l'être humain, eh bien, vers quoi il se tourne? Vers mille et une petites tribus qui se proposent à lui comme des identités de rechange ou des identités de substitution. Ça a des conséquences, soit dit en passant, lorsque vient le temps de faire des discussions sur les choix collectifs qui nous sont proposés. Une chose qui me frappe aujourd'hui, c'est que il est normal que dans une société, les syndicats n'aient pas les mêmes intérêts que les patrons. Il est normal que les enseignants n'aient pas les mêmes intérêts que les avocats. Il est normal, autrement dit, c'est la pluralité sociale, elle est inévitable et elle est saine. Ce qui est terrible, cela dit, c'est lorsque ces nombreux groupes qui ont chacun des intérêts sont incapables de reconnaître quelque chose comme un intérêt commun qui transcende ces intérêts particuliers. Ah, évidemment, il est difficile à définir, ce bien commun. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est l'idée même du bien commun que nous avons perdu aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est cette idée. Qu'est-ce que c'est l'idée du bien commun? Il est très facile de dire « mes intérêts particuliers, c'est le bien commun ». Alors, c'est très facile de traduire chacun de ses désirs en bien commun. J'ai besoin d'une Ferrari, c'est pour le bien commun. Bon, certes. Mais j'ai des revendications sociales, identitaires, c'est le bien commun. L'idée de bien commun, qu'est-ce qu'elle devrait être sa véritable signification? ça ne consiste pas simplement à nommer bien commun le désir individuel. Le bien commun, c'est un frein mental qui devrait normalement amener chacun à relativiser ses propres intérêts pour tenir compte des intérêts de l'autre. Autrement dit, le bien commun, c'est une manière de me rappeler que mes désirs ne doivent pas être exagérément expansionnistes, que je dois relativiser mes propres aspirations pour tenir compte des aspirations de l'autre. Et c'est quand il y a cette conscience d'une relativité des intérêts de chacun et que chacun n'absolutise pas ses revendications qu'il est possible de retrouver quelque chose comme une chose commune, un lieu de rassemblement, des repères partagés qui viennent à la fois avec l'esprit de sacrifice, mais quelquefois aussi avec l'esprit, je dirais, de réussite en commun. Je suis convaincu d'une chose, le sacrifice, je n'ai pas envie de le poétiser, de le romantiser. Vous savez, hein, c'est quelquefois ces pères fouettards qui nous disent « les sacrifices, c'est formidable, des sacrifices ». Pas toujours bien, franchement. Mais si l'esprit même, si la capacité même à relativiser ses propres intérêts n'existe pas dans une société, eh bien, à quoi on assiste? On assiste à une forme de, là j'utilise le mot entre guillemets et sans référence aucune à quelque fusil que ce soit, mais une forme de guerre civile douce. C'est-à-dire, chacun se bat simplement pour ses propres intérêts et se contrefout du collectif. Et ce qui en résulte, finalement, c'est que le pouvoir public distribue au plus fort et au plus criant, et celui qui a le plus accès aux médias ou qui a le plus de capacité de pression, distribue les deniers du jour sans être capable de se projeter dans l'avenir avec une véritable vision de l'intérêt collectif. Alors, quand vient le temps de poser cette question-là, quand vient le temps de penser à l'éducation, quand vient le temps de penser à la question des retraites, quand vient le temps de penser à la question du système de santé, quand vient le temps de poser toute une série de questions bien pratiques, finalement, cette capacité de se projeter dans un au-delà de ses propres intérêts, lorsqu'elle se dissipe, eh bien, ça fait une société où plus personne n'est capable de nouer un contact qui dépasse simplement celui de l'intérêt bien compris. Ah oui, quand même. Je me rapproche de la fin. Dernier élément qu'il me semble nécessaire de mentionner, nous assistons aussi, je crois, à une dénaturation de l'idée démocratique en elle-même. Puisqu'il n'y a plus de commun, eh bien la souveraineté populaire elle-même devient un mythe. Qu'est-ce que c'est la souveraineté populaire? C'est l'idée qu'au-delà de nos intérêts particuliers, quelque chose nous rassemble et que c'est dans ce quelque chose qui nous rassemble que la majorité, lors des élections, peut voter pour un programme, l'imposer, puis dans 4 ans ou dans 8 ans, quand les gens ne seront pas contents, ils voteront pour un autre programme, puis c'est ainsi qu'une société avance à tâtons, mais avec un horizon. Lorsque on dit « il n'y a plus que des intérêts privés, il n'y a plus que des droits individuels, il n'y a plus que des intérêts minoritaires », lorsqu'on dit que toute forme du collectif est condamnable, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit finalement que la démocratie n'a plus aucun sens. À quoi sert-il de voter si on vide systématiquement le jeu politique ou la vie politique de son contenu, de ce qui est essentiel dans la politique, pour transférer ça vers de nouvelles instances qui gagnent un pouvoir immense en prétendant justement gérer cette nouvelle société du tout à l'individu? Je pense bien évidemment ici à la judiciarisation de la démocratie contemporaine. On pourrait dire au gouvernement des juges, à la confiscation de la démocratie trop souvent, par un système juridique qui, bien évidemment, est indispensable, mais quelquefois prétend se substituer à la démocratie classique pour fixer nos choix de société. Lorsque, sur des questions les plus fondamentales qui soient, on nous explique que la souveraineté populaire, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle serait populiste, parce qu'elle serait condamnable, parce qu'elle serait soumise aux humeurs et aux pressions de l'électorat, et qu'on nous demande de nous fier à un gouvernement de plus en plus des grands sages qui prétendent se substituer au peuple pour gouverner à la lumière éclairée de je ne sais quelle révélation, il nous est permis de nous dire que nous ne sommes plus vraiment en démocratie. C'est le paradoxe dans lequel nous vivons aujourd'hui que nous nommons démocratie un régime fondé sur la censure du peuple. Ça ne veut pas dire que le peuple a toujours raison. Ça ne veut pas dire qu'il doit être tout puissant. Mais ça veut certainement dire que si on décide de censurer la notion même de peuple en démocratie, eh bien nous ne vivons plus en démocratie tout simplement. Et la population, encore une fois, est consciente, je crois, intimement de cet évidement, de cette désubstantialisation de la démocratie, vidée de ses contenus, le fait que dans une élection, on propose de plus en plus des discussions sur des thèmes secondaires, mais que toutes les questions fondamentales vont se traiter en d'autres domaines. Elles seront réglées par le marché, elles seront réglées par les tribunaux, elles seront réglées par les administrations publiques, mais elles ne seront pas résolues par des hommes politiques s'engageant devant l'électeur avec un projet en lui disant « voilà ce que je veux faire ». Donc, la démocratie elle-même a tendance à se vider dans un tel contexte. Donc, si, comme je l'ai suggéré, l'individu s'enferme tellement lui-même qu'il n'est plus capable de nouer quelques contacts avec l'autre, si le collectif s'effrite en groupes concurrents cherchant à s'approprier le bien commun sans être capable de nommer le bien commun, quand l'idée même de bien commun disparaît, si, comme je le suggère, la démocratie a tendance à se vider de cette belle idée qu'est la souveraineté populaire pour consacrer la multiplication de pouvoirs en devant de moins en moins au peuple et prétendant nous gouverner selon le principe d'une forme de despotisme éclairé, eh bien, si je ne me trompe pas trop dans ma description, j'aurais tendance à dire que la société idyllique dans laquelle nous sommes supposés vivre est bien éloignée de l'idylle. Et qu'il y a de plus en plus dans nos sociétés des crises majeures qu'il faut nommer comme telles, qu'il faut identifier, qu'il faut savoir traduire ensuite en diagnostic politique. Évidemment, lorsqu'on décide de se risquer dans une telle aventure, on doit traverser un obstacle plus puissant que bien d'autres obstacles, et c'est ce qu'on appelle, de manière commune, le politiquement correct. Qu'est-ce que le politiquement correct? Ça consiste normalement à pathologiser, donc à traiter sur le mode du dérèglement psychiatrique des gens qui sont en désaccord avec l'idéologie dominante. Et j'en prends un exemple. Vous savez, cette multiplication des phobies aujourd'hui, hein? On multiplie les phobies pour nommer à peu près tout. La dernière en date me fascine. Vous vous rappelez des élections européennes qu'il y a eu il y a quelques mois? C'était en juin, je crois, ou en mai ou en juin 2014. Et manifestement, les électeurs européens commencent à dire que la construction européenne ne fonctionne pas très bien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la construction européenne. On peut être d'accord ou en désaccord, mais ils l'expriment. Réaction du système médiatique, épidémie d'europhobie. Alors là, euroscepticisme aurait encore passé. Europhobie. Autrement dit, ce qui s'exprime dans la population, ce n'est pas un désaccord potentiellement rationnel avec une organisation du continent européen qui manifestement n'est pas optimale. C'est un dérèglement psychiatrique fondé sur une peur obsessionnelle de l'Europe sans fondement dans la rationalité. Si chaque fois que se manifeste le sentiment populaire, on le taxe de phobie, ou encore vous êtes critique, c'est ça le sujet dont j'ai parlé souvent, vous êtes critique du multiculturalisme, vous n'êtes pas critique du multiculturalisme, vous êtes xénophobe, peut-être même êtes-vous raciste aussi, ce n'est pas impossible. Donc, quand on a ce système de disqualification morale, du désaccord dans l'espace public, quand la dissidence démocratique est pensée à la manière d'un trouble psychiatrique, quand la possibilité de nommer un désaccord avec la société qui nous est proposée est pensée inévitablement comme une volonté réactionnaire d'enfermer les gens dans un système traditionnel étouffant qui viendrait nier les conquêtes de la modernité et de la libération démocratique, eh bien, quand on a l'alternative qui nous est proposée, c'est embrasser le monde tel qu'il est, ou alors accepter de jouer le rôle de l'épouvantail réactionnaire, eh bien, même la possibilité de traduire en débat politique le malaise que nous avons, plusieurs à tout le moins, devant la société qui nous est présentée comme société idyllique, eh bien, la possibilité même de nommer le malaise politique, elle est censurée. Alors, j'en arrive à cette conclusion, la vraie. Je pense que si l'engagement politique a encore un sens aujourd'hui, ça consiste d'abord et avant tout à transgresser ce vaste interdit. Ou si vous voulez le dire autrement, si l'engagement politique a encore un sens aujourd'hui, ça consiste à nommer, à identifier, non plus simplement à la manière de symptômes vagues, mais de nommer les grandes failles sociales, les grandes lézardes sociales et culturelles et identitaires qui traversent nos sociétés, pour être capable tout simplement de nommer le malaise. Et nous rappeler que l'objet même de l'engagement politique, ça devrait être de trouver des solutions politiques à ces nombreux malaises qui apparaissent devant nous. Quant à moi, je n'arrive pas avec un programme, loin de là, mais peut-être avec un horizon. L'horizon serait le suivant. Autant nous avons cru, peut-être, et il n'y avait pas que du faux là-dedans, que l'individu devait se délivrer des institutions trop pesantes qui l'enfermaient quelquefois, autant nous sommes arrivés à ce que j'appelle le temps des ancrages. Il sera nécessaire, me semble-t-il, non pas pour installer le paradis sur Terre, mais simplement pour redonner un peu de des cadres émancipateurs, pour redonner un peu de stabilité, pour redonner un peu, je dirais, de sens des ancrages et de l'enracinement qui alimente l'existence, il nous faudra, d'une manière ou de l'autre, reconstruire ce collectif. Reconstruire le collectif, ça ne veut pas dire restaurer le collectif d'avant-hier. Ça veut dire tout simplement être capable de rebâtir des repères partagés qui soient autre chose que des repères transparents, simplement faits de droits ou de revendications minimalistes. Rebâtir des repères, ça veut dire redécouvrir l'histoire, ça veut dire redécouvrir le sens de l'enracinement, ça veut dire redécouvrir le sens du commun qui limite justement l'hégémonie absolue d'un individu décomplexé, ne voulant plus entendre parler des autres. Si l'engagement politique a encore un sens aujourd'hui, ça consiste justement à travailler à reconstruire ce sens du commun, à reconstruire ce sens du collectif, à reconstruire les ancrages, à redéfinir les ancrages qui nous sont nécessaires, à rebâtir ce cadre sans lequel la liberté n'est trop souvent qu'une illusion. Je vous remercie.